Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, mon nom est Claude Saint-Georges, je vous souhaite la bienvenue à l'émission À nous le futur, qui est à vous le futur aussi, et puis c'est à nous le beau futur, hein, je tiens à le préciser, et ce beau futur qu'il s'agit d'importer dans le présent, puis aujourd'hui c'est un peu plus facile parce qu'il fait tellement beau, le soleil brille et puis c'est pas trop chaud. Alors c'est ça, bienvenue à cette émission, puis j'en profite pour remercier, j'y pense pas toujours, l'Université de Sherbrooke qui a en son sein une radio universitaire, CFAC. Et je remercie CFAC de m'offrir le micro, une occasion de vous parler. Et ce micro-là, je le partage des fois. Et puis, des fois, ça ne marche pas pour partager. Fait qu'aujourd'hui, je suis seul et puis je vous parle avec plaisir. Alors, il va être question dans la mission de cette émission que je précise encore une fois et un peu moins que d'habitude, là. De l'option à l'impératif. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et en premier lieu, d'abord, je faisais l'année passée des chroniques qui, au début, c'était l'art écologique, que j'en fais moins souvent, mais je reviens une fois de temps en temps. Alors, la Fondation Grantham, G-R-O-N-T-H-O-M, pour l'art et l'environnement, c'est ce qui m'inspirait souvent. Et puis, elle offre une lettre, un bulletin de nouvelles une fois par mois. Fait que j'ai reçu celui récemment de octobre 2024. C'est la Fondation Grantham pour l'art et l'environnement. Alors, je vous suggère de vous abonner à ça. C'est gratuit. Alors, il y a dans ce bulletin une annonce des lauréats et des appels de projets pour 2025. On dit qu'il y a des résidences, là, de l'argent pour faire un stage à cet endroit-là. Et chacune... des stages, là, c'est assorti d'une résidence d'un mois à la Fondation. Et les grands prix sont d'une valeur de 10 000 pour le volet création et de 5 000 pour le volet recherche. Durant sa résidence, Seth Cardinal Dunginhorse réalisera une série de performances à partir de la question « Qu'est-ce que la Terre nous dit? » Et ce travail sera directement inspiré par le territoire et l'environnement où se situe la Fondation. Alors, d'autre part... Burgo et Schmidt-Arenal entameront une recherche qui est en élaborant autour d'un projet de film expérimental qui examine les défis posés par la décarbonation énergétique au sein d'une communauté rurale fictive effectuée par un projet de développement d'énergie verte. Et puis, le bulletin nous dit aussi, nous fait faire un retour en photo du vernissage « Éteindre la nuit ». Ça s'est déroulé sous un doux soleil de septembre. Il a rassemblé 150 personnes qui se sont déplacées à la Fondation afin de découvrir les œuvres réunies dans cette exposition portant sur la valeur écologique de l'obscurité. Alors, c'est terminé pour l'art écologique. Alors, je vous parle de la mission de cette émission encore une fois. En gros, c'est de contribuer à co-créer un beau futur pour tout le monde. Et puis, je vous parle et je continue de le faire, là, de Buckminster Fuller. Je serai court cette fois-ci. Fait que Buckminster Fuller, dans son livre « Utopia or Oblivion », 1940, là, disait « Qu'est-ce que la richesse? » La richesse, c'est le nombre de jours de survie de l'humanité, disait-il. Mais un peu plus en détail, il disait que la richesse, c'est de l'énergie et de l'information. L'énergie ne peut décroître et l'information ne peut que s'accroître. Alors, on peut déduire qu'un jour, il y aura assez d'informations pour transformer l'énergie de façon à être capable de satisfaire tous les besoins de toute l'humanité, écologiquement et pacifiquement. Donc, ce jour est arrivé en 1970 pour la première fois. L'humanité pouvait quitter l'ère de la rareté pour entrer dans celle de l'abondance. Ça dépend de sa volonté et de son choix. Et cette option a été plus structurée mieux écrite et montrée en 1980 dans le livre Critical Path, qui expliquait aussi un plan d'action d'une durée de 10 ans que Fuller appelait la stratégie de la science du design. Et théoriquement, en 1990, toute l'humanité aurait très bien pu vivre une belle qualité de vie, écologiquement et pacifiquement. Malheureusement, cela ne s'est pas encore passé. Fuller avait un sens du rythme, disons peut-être de Led Zeppelin ou du rock and roll. Exactement, très rapidement. Mais l'humanité a plus le goût d'une valse ou d'un tango, on dirait, fait qu'elle se donne plus de temps. 40 ans plus tard, Kate Raworth a écrit la théorie du donut, où elle souhaitait une zone sûre et juste pour l'humanité, et à la condition que le plafond écologique soit respecté et que le plancher social soit respecté aussi. Le plancher social, c'est satisfaire les 12 besoins de l'humanité. Et puis, c'était une autre manière, à mon avis, de dire ce que Fuller avait dit en 1980. Et puis, Éloi Laurent, lui, c'était un autre économiste qui avait dit « Ouais, c'est bien beau, Mme Raworth, c'est bien beau, mais c'est trop statique, j'aimerais mieux, moi, une boucle sociale écologique. » Éloi Laurent disait ça dans « Et si la santé guidait le monde, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance. » Et puis donc, en gros, c'est Buckminster Fuller qui parle d'une nouvelle option qui existe. Et puis, ça ne s'est pas fait. Puis là, l'écologie se détériore, il se passe des guerres, la démocratie baisse. L'évasion fiscale augmente, si bien que près de la moitié de l'argent de l'humanité est caché dans des paradis fiscaux. C'est ce que dénonce Alain Deneau, qui est venu à Sherbrooke récemment, commenter le film « La très grande évasion fiscale ». Alors, merci, M. Deneau, de vous être présenté ici. Vous êtes un professeur de haut calibre et un écrivain merveilleux, prolifique, extraordinaire. Entre parenthèses, on aime les écrivains et les écrivaines, mais les lecteurs et les lectrices, il faut les apprécier aussi, parce que sans lecteurs et lectrices, il n'y a pas d'écrivain. Ou il n'y a que des livres qui voyagent dans l'atmosphère sans être lus. Alors, moi, je les lis, et j'aime lire, et puis j'aimerais que vous m'accompagniez dans la lecture, et je vous en fais profiter aussi de mes lectures. Fait que, donc, j'ai parlé de Buckminster Fuller, mais il y a aussi un deuxième livre qui s'appelle « Human Agenda » du psychiatre Roderick Gorney. Ça, ça fait partie de la mission de l'émission aussi. Roderick Gorney a dit, ce psychiatre futuriste-là, en 1979, dans son livre « The Human Agenda », que l'humanité a toujours vécu dans un contexte de rareté. Alors, pour s'adapter, elle a défini un sens de l'identité, un sens de l'estime de soi, et elle a donné une définition aussi de l'amour, le jeu et le travail pour s'adapter à la rareté. Mais, dit M. Gorney, puisque nous avons maintenant l'option de l'abondance, il faut changer le sens de l'identité, le sens de l'estime de soi, la définition du jeu, du travail et de l'amour, parce que, si on ne fait pas ça, on va avancer à reculons dans notre futur. Puis c'est ce qu'on fait. On est tellement à reculons qu'on n'avance pas dedans. On avance dans le passé. Fait que, c'est ce que je veux vous dire, là. L'option de Buckminster Fuller que l'humanité pourrait très bien vivre écologiquement et pacifiquement, ça, il faut s'en imprégner jour et nuit, essayer de la ressentir, de l'imaginer, pour nous donner le goût de la réaliser, cette fameuse option-là, de réaliser le plan, parce qu'il est encore réalisable. Oui, on a des changements climatiques qui sont désormais, comme dit M. Deneau, autonomes. Ça empire tout seul, là. Mais avec une de ces solutions qui est le biorégionalisme, on peut finalement s'aider à survivre. Et puis, son autre solution, c'est de démanteler l'évasion fiscale. On en parlera un peu plus tard. Il ne faut pas oublier de démanteler l'appareil militaire mondial. Fait que, donc, ressentons, goûtons l'option de la réussite de l'humanité. Et aussi, réalisons ce que M. Deneau appelle l'impératif des biorégions. Et puis, je pense que je vais finir avec ça. Je termine avec l'émission avec ça. Et puis, je commence... l'histoire des Premières Nations, parce que je veux vous parler des Premières Nations d'ici à la fin de ce semestre. On a 11 Premières Nations. Je pense qu'il reste 12 émissions d'ici au 19 décembre. Là. Je vais avoir le temps de vous parler des 11. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu général. Ça fait que je voudrais vous parler du livre 1491 de Charles C. Mann. J'en ai déjà dit un mot, mais quand même pour vous resituer le contexte. C'est des nouvelles révélations sur les Amériques avant Christophe Colomb. Alors, les Amériques avant Christophe Colomb, c'était une entité, n'est-ce pas? L'Amérique du Nord, du Centre et du Sud, là. Ça s'appelait l'île de la Tortue. Et puis, il y avait des Autochtones là-dessus. Il y en avait autant qu'en Europe. Et il y avait autant de grandes villes qu'en Europe. Fait qu'avec l'arrivée des Européens, là, malheureusement, il y a eu extinction presque des Autochtones. C'est un meurtre là, des collectifs. Là. Fait que, cependant, il y en a resté un peu. Et elles regrandissent, les communautés autochtones. Et puis, on veut leur faire de la place et cette émission veut contribuer à le faire. Alors, un petit point ici à tirer d'un livre. Je ne vois pas le titre, mais je vais vous dire que l'enseignement des littératures autochtones, il existe un groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière, ça s'appelle le GRENOC, G-R-E-N-O-C, qui est associé au cégep de Sept-Îles et qui met en valeur les travaux de la revue Littoral, et qui est en soi un indicateur de l'intérêt porté aux littératures autochtones dans les établissements scolaires québécois. Au-delà de ces projets de recherche, le corpus littéraire des Premières Nations commence également à être enseigné dans les universités québécoises. La chercheuse Marie-Hélène Jeannotte, qui s'intéresse à la figure de l'écrivain amérindien, offre un cours d'introduction aux littératures autochtones aux étudiants et aux étudiantes inscrits au baccalauréat en études littéraires et culturelles de l'Université de Sherbrooke. Ah tiens, tiens, bravo! Et puis, les productions littéraires des Premières Nations intéressent également un nombre de plus en plus important d'enseignants de littérature et de français au niveau collégial et de secondaire. Le congrès de l'Association québécoise des enseignants de français langue seconde s'est ouvert en 2014 avec la conférence de l'écrivaine Naomi Fontaine, venue partager avec la congressiste son idée de l'identité inoue et du rôle que peut jouer la littérature dans l'affirmation culturelle de sa nation. Et je voudrais aussi vous dire qu'il existe un regroupement des radios Anisinabek. C'est A-N-I-C-I-N-A-B-E-K. Et comme lecture un peu d'introduction à la culture autochtone, lecture plus universelle, plus générale, je m'inspire de la revue Liberté, art et politique, numéro 322 de l'hiver 2019. Il y a deux articles là-dedans, un de Daniel Sioui et un de Richard Desjardins. Je n'aurai pas le temps de vous lire ça complètement aujourd'hui parce que c'est 7 pages Desjardins seulement, où il dit finalement que les Algonquins de Val-d'Or, c'est un peuple invisible et c'est un peuple de seconde zone. Ça prend 7 pages pour le dire, mais important de lire presque chaque mot. Alors, le premier article, c'est « Après l'Écosse, la Catalogne, le Brexit ». L'île de la Grande Tortue, dit Daniel Sioui, qui est le fondateur de la librairie Aninorak à Wendake, et puis qui a mis sur pied la première édition du Salon du livre des Premières Nations. Alors, M. Daniel Sioui dit, « Aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre futur en tant que Québécois, mais surtout en tant que membre de la grande famille des Premières Nations. Mon but est de susciter une discussion entre vous, les Autochtones, et nous, les Autochtones, mais surtout entre nous. » Pourquoi parler du futur? Peut-être parce que je suis un peu tanné de me faire dire que mon peuple vit dans le passé. Mon peuple, les Premières Nations, commence à réfléchir au présent et à soigner ses plaies. Tranquillement, nous nous dotons d'un présent plus confortable. Il est peut-être maintenant temps de penser au futur. Un futur qui concernerait toutes les Premières Nations. Un futur qui nous aiderait à bâtir le présent, que nous envisagerions enfin à notre image. Vous me direz que notre futur est déjà tracé, qu'un jour le Canada va enfin se décider à bien nous traiter et que nous finirons par accepter notre sort, de faire partie de la Fédération canadienne dans la joie et l'allégresse, comme tout Canadien qui se respecte. La situation ne peut plus continuer comme ça. C'est vrai que la population canadienne est de plus en plus consciente des problèmes reliés aux communautés autochtones, qu'elle y est plus sensible, mais on ne peut certainement pas dire que c'est la joie, tous les jours dans les réserves, qui ne voit pas le côté crétin de la loi sur les Indiens, qui fait de nous des pupilles de l'État et qui nous empêche de prendre en main notre destinée. Beaucoup d'Autochtones réclament sur toute tribune offerte de sacrer à la poubelle cette maudite loi. Mais qu'est-ce qui se passerait après? C'est notre gros problème. Alors là, je ne peux pas tout lire, c'est ces 2 pages-là, mais M. Daniel Sioui parle que la situation canadienne des Premières Nations, elle est floue. Elle n'est jamais décidée par les Autochtones eux-mêmes. Alors, vous, les Québécois, avez eu 2 référendums. Alors, pourquoi pas nous, au moins un référendum. Ce serait que ça constrait à demander au tuteur qui est le gouvernement fédéral, c'est lui qui demande aux Autochtones, voulez-vous rester dans le Canada? Alors, si c'était oui, il y aurait des chances de protéger l'identité, on irait un petit peu mieux. Au lieu d'un Chinatown, ça serait peut-être l'Autochtone. Nous deviendrions des immigrants dans notre propre pays. Et le gouvernement qui veut toujours nous assimiler aurait plus de la misère. On aurait peut-être une meilleure qualité de vie en contrepartie de la disparition de notre culture. Mais, dit Daniel Sioui, si le non l'emportait, qu'est-ce qui se passerait? Ben, on aurait moins de dépendance. On ne serait peut-être pas plus riche, mais sur nos territoires, les compagnies qui viendraient devraient payer des redevances. Et puis, on retrouverait notre sentiment de fierté. Et les Iroquois, peut-être avec eux, on construirait le grand arbre de la paix. Parce que les Iroquois, leur constitution, c'est autour du grand arbre de la paix, qui est, je pense, un pin blanc. Alors, revenons au 21e siècle, dit Daniel Sioui. Qu'est-ce qui se passerait? La structure gouvernementale des Nations du Québec est déjà existante. Il ne resterait plus qu'un seul petit détail à régler. Quels seraient les territoires cédés aux Premières Nations? Je suis certain que cela ferait plaisir aux Québécois de nous céder la moitié du Québec. Qui habite dans le Nord, si ce n'est les Autochtones et les Inuits? Ce serait normal que cela leur revienne. Vous ne pensez pas? Fini Hydro-Québec, vive Hydro-Cri. Vous ne trouvez pas que cela sonne bien? À quand le référendum? Alors ça, c'est Daniel Sioui dans la revue Liberté, Art et Politique, numéro 322, hiver 219. Je n'ai pas eu le temps de vérifier si on l'a à la bibliothèque Eva Sénécal. Je pense que oui. Ou c'est sûr qu'à la bibliothèque de l'Université de Sherbrooke, ça existe. Et sinon, vous avez toujours le prêt entre bibliothèques. Je vous suggère beaucoup de lire ça. Alors, vous écoutez À nous le futur avec Claude Saint-Genre. On passe à la publicité. OK. C'était Gilles Valiquette qui chantait ça. Il a chanté au Vieux Clocher en fin de semaine passée à Magog. J'y étais. J'ai beaucoup aimé. Je le connaissais. Hein? Vous, les jeunes de 18-20 ans, ça ne vous dit rien. Pour vous, c'est de la musique émergente. Moi, c'est de la vieille musique parce qu'il fête 50e de son début de musicien, Gilles Valiquette. Et puis, Norman Brathwaite joue avec lui cette chanson-là. Bon, fait que cette émission, nous, le futur, se veut cool. Et je me veux cool. Puis, si on est cool, les changements climatiques vont être moins chauds. Fait que, bon, voilà que je voulais vous dire, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Là. Buckminster Fuller, on n'a pas réalisé son plan, mais on peut toujours le faire. On peut se reprendre toujours. On a encore une marge de manœuvre. Pas une marge de crédit, une marge de manœuvre. Et puis, le Buckminster Fuller Institute se penche aussi sur la question des biorégions. Il fait de la recherche et il publie des documents là-dessus. Alors, c'est un appui à professeur Alain Denoux. De la part du Buckminster Fuller Institute. Je voudrais vous dire que le livre « Le terrorisme alimentaire, comment les multinationales affament le monde », ça existe. C'est de Vandana Shiva. Il est à la bibliothèque de l'Université de Eva Sénécal. Et puis un petit mot du sommaire, là, de la table des matières. « Rien à manger, rien à boire, la souffrance au féminin ». Ça, c'est un chapitre. « Les ressources alimentaires mondiales confisquées ». Le vol des richesses de la mer. Le mythe de la sûreté de l'approvisionnement alimentaire. Ça, c'est un point très précis du professeur Denoux, que l'approvisionnement pourrait se terminer, puis on pourrait vivre un sale quart d'heure, dit-il. C'est pourquoi il faut se brancher tout de suite dans la création de biorégions. Et puis, Mme Shiva, dans Le terrorisme alimentaire, parle de la reconquête de la démocratie alimentaire et de recouvrer la richesse volée. C'est encore un point qui ressemble à ce que dit le professeur Denoux. Démanteler le système d'évasion fiscale. Finalement, l'évasion fiscale, c'est les 1% des plus riches qui ont mis de côté presque la moitié de l'argent de la planète dans des paradis fiscaux. Alors là, je vous dis ça en gros, là, des phrases résumées, là. Mais la semaine prochaine, je vous lirai des extraits j'ai à peu près 6 livres du professeur Denoux sur une vingtaine qui existent. Et puis, entre parenthèses et plus qu'une parenthèse, là, c'est aujourd'hui, le 3 octobre, Alain Deneau sort un nouveau livre, ça s'appelle « Faire que !» Fait que c'est là-dedans, je crois, parce que on lit le 3, puis il n'est pas là encore, dans mes mains, là, qu'il explique pourquoi nous devons faire des biorégions, pourquoi c'est un impératif, une nécessité. Alors, avant de m'enfoncer un peu plus là-dedans, je voudrais vous dire que, tu sais, l'organisme Slow Food, c'est merveilleux, ça. Moi, j'ai déjà été membre, j'ai trouvé ça cher, j'ai pas renouvelé, c'était 100 pièces par année. Aujourd'hui, c'est sûrement à peu près 150 pièces. Mais Slow Food, c'est comme, tu sais, la nourriture lente, là, c'est très bien. Elle favorise l'écologie, l'agroécologie pour la synergie qui produit des aliments nourrissants, bons pour notre santé et celle des écosystèmes. Slow Food encourage l'agroécologie pour créer un système agricole plus sain, productif et durable. Elle est présente dans 120 pays. Et puis, pardon, il dit que l'agriculture industrielle cause des dégâts. Et ces dégâts-là ont été estimés à 15 000 milliards de dollars, soit 12 % du PIB mondial. Fait que c'est pas drôle, hein, n'est-ce pas? Fait que je vous suggère de suivre Slow Food et vous pouvez vous abonner à un bulletin de nouvelles gratuit, lui aussi. Alors, Slow Food propose une éducation alimentaire. C'est la première étape de mobilisation du changement pour les activités. Pour finalement, tu sais, je dis changer, là, c'est l'éducation alimentaire. Et ça, c'est le livre Terra Madre qui explique ça. Là, je vous parle du sommaire du livre Terra Madre qu'il y a aussi à la bibliothèque Eva Sénécal. Il y a un avant-propos de Jean L'Héritier où il dit que le plaisir, c'est important. Et que un mot de Edgar Morin, là. Attendez un petit peu. Edgar Morin, je vous en ai parlé dans d'autres émissions. Il dit que par là même, on se rend compte qu'il faut mener cette lutte précise pour sauver la planète, la lutte pour une meilleure alimentation d'une meilleure qualité, ce dont s'occupe Slow Food. Alors, Slow Food, elle met de l'avant le principe du plaisir. C'est pourquoi il y a des ateliers du goût. Et puis, l'arche du goût. L'arche du goût, c'est pour garder des légumes et des semences afin de ne pas les perdre. Puis, la nourriture nous mange dans le sens que le gaspillage nous dévore tous. Et on dit que bien manger ne coûte pas cher. Et ce qui rejoint aussi ce que dit le professeur Deneau, les avantages de l'économie locale et de la jouissance de la vie. Et parlant de biorégion, j'ai parlé à Roméo Bouchard, je lui ai demandé la question par courriel, parce que, n'est-ce pas, il écrit beaucoup sur la réforme de la démocratie, et je pense que c'est parce que la démocratie n'est pas réformée que nous avons de l'inflation fiscale exagérée. Alors, je lui ai parlé de biorégions, qu'est-ce qu'il pense des biorégions, parce qu'il, lui, a écrit un livre sur la décentralisation dans le cadre de la réforme de la démocratie. Puis, je lui ai dit... Bonjour Roméo, dans ton livre Décentralisation, tu ne parles pas de biorégion. Pour toi, c'est implicite, point d'interrogation. Sa réponse, j'en parle indirectement quand je mentionne que le découpage des régions administratives, entre guillemets, est à revoir pour épouser davantage les véritables milieux de vie, entre parenthèses, les territoires géographiques, les bassins versants, les territoires d'appartenance et de référence, l'histoire, etc. La notion de biorégion se réfère à ce genre de critères territoriaux pour délimiter les régions naturelles plutôt que découpage purement administratif. Quand on parle de véritable région politique plutôt qu'administrative, c'est un peu ça dont il est question aussi. Mais le découpage actuel des 16 régions du Québec demeure un cadre qui a été très utile. On peut l'améliorer sans tout bouleverser au nom d'un nouveau concept et un nouveau mot, biorégion, qui dans le fond n'est pas si nouveau. Il est vrai que j'ai vu que dès 1970, surtout aux États-Unis, des gens comme Gary Snyder en parlaient. L'important, c'est le principe de décentralisation régionale. Et puis, dans mes recherches, ce dont je vais vous parler aussi plus tard, c'est... J'ai trouvé, par exemple, Nancy Todd et John Todd, qui ont fait le New Alchemy Institute. Donc, ces gens-là se réfléchissaient comment vivre localement comme il faut. Là. Puis, il y avait des recherches sur le compostage de l'urine. Ça m'avait étonné combien... Comment il y a eu beaucoup de recherches là-dessus pour se servir de ça pour le compostage... pour nourrir les sols plutôt que les épandages industriels. Alors, finalement aussi, je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler de ce dont j'ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais je vous donne quelques mots du glossaire, quelques glossaires du livre Les émotions de la Terre. Qu'est-ce que le biocommunène? C'est le lien vital unissant l'ensemble des organismes vivants d'un holobionte. Qu'est-ce qu'un holobionte? C'est une unité biologique composée de l'hôte, plante ou animal, et de tous ses micro-organismes. Cette conception tend à remplacer celle de l'organisme isolé. Qu'est-ce que l'endémophilie? C'est un nom féminin, ça veut dire un amour éprouvé par les habitants pour un lien en raison de son endémisme. Pas un lien pour un lieu, pardon. Donc, c'est un amour éprouvé par les habitants pour un lieu en raison de son endémisme. Le lieu pourrait être, vous le devinez, une biorégion. Qu'est-ce que la soliphilie? C'est l'amour du lieu se traduisant par l'engagement politique pour la protection des habitats aimés à toute échelle du local global contre les forces de dévastation. Qu'est-ce que la terra furie? C'est une colère extrême non contenue provoquée par les tendances autodestructrices de la société industrielle et technologique. Elle insiste à la protection, pardon, à la protestation et à l'action. Alors, qu'est-ce que le tierra trauma? C'est un trauma existentiel causé par la gravité de l'état de la Terre. Alors, vous reconnaissez beaucoup des écrits d'écologistes dont je vous ai déjà parlé dans ces mots. Et puis, comme je disais, nous avons eu la chance d'avoir Alain Deneau ici, à Sherbrooke, parce qu'il fait le tour du Québec pour relayer les thèses d'un documentaire sur l'évasion fiscale, documentaire qui s'appelle « La très grande évasion ». Ça invite à une réflexion collective sur la justice fiscale et les inégalités économiques. Ce film incisif se penche sur l'évasion fiscale et sur le mécanisme complexe permettant aux multinationales de se livrer en toute légalité à une optimisation fiscale, entre guillemets, qui confine à la fraude. C'est ce que M. Deneau appelle une escroquerie légalisée. Tout en dénonçant la croissance insolente des montants ayant réussi à éluder l'impôt au cours des 20 dernières années, le film dresse un parallèle entre ce phénomène et les difficultés financières des États à travers la planète et, évidemment, de la pauvreté que ça cause pour les peuples. Même M. Deneau n'hésite pas à dire que ces multinationales tuent des gens parce qu'on a moins d'argent pour l'éducation, les infrastructures, les trottoirs, la santé. C'est un système de tricherie, dit-il. Ce long-métrage se veut une analyse profonde des techniques d'évasion fiscale permettant aux plus riches de disséminer leur fortune, souvent au détriment des citoyens ordinaires. Vous avez les Panama Papers qui parlent de ça? En France, c'est 100 milliards de dollars que les riches soutirent au pays avec des lois qui leur facilitent ça. Et puis, j'ai lu dans Oxfam France là, 16 suggestions d'action pour rapatrier ces 100 milliards de dollars. Donc, M. Deneau était là pour commenter le film. Après le film, il y a eu des questions. Alors, sur que faire pour démanteler le système de l'évasion fiscale, j'ai pris quelques notes, là. Nous avons tous et toutes, dans tous nos pays, les provinces et tout ça, des entreprises multinationales qui produisent. Alors, il faut les taxer tout de suite, ici et maintenant. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est dire aux paradis fiscaux que ce qu'ils font, c'est de l'ingérence politique grossière. Par exemple, les Bahamas, là. Et troisièmement, c'est d'être fier parce que, mine de rien, nous disons aux multinationales, venez, saccagez, faites des dégâts, faites de l'argent, puis repartez avec tout notre pays défait. Fait qu'il faut être plus fier de nous-mêmes pour leur interdire de faire ça. Et il proposait aussi le tirage au sort comme moyen politique. Alors, il a parlé de Roncière, R-O-N-C-I-E, accent grave R-E, qui est un philosophe qui a écrit sur le tirage au sort. J'ai regardé ça. J'ai trouvé quelques articles, bien sûr. Castoriadis et Rancière, quels apports pour une philosophie du tirage au sort en politique? J'ai dit Roncière, c'est Rancière. Fait que, allez voir ça. Puis le tirage au sort, je tiens à dire que dans une constitution écrite par le peuple, ce que proposent Roméo Bouchard et André Larocque ici, là, le tirage au sort serait là pour que ce ne soit pas des gens corrompus qui soient élus, parce qu'ils ont le tour de se faire élire sans bon sens, finalement. Fait que les paradis très spéciaux, là, j'ai vu un article qui s'appelle « Paradis très spéciaux de l'Association pour l'économie distributive » qui encense le professeur Deneau. C'est eux autres qui disent que c'est près de la moitié du stock mondial d'argent qui est dans les paradis fiscaux. Et nous avons un pouvoir d'agir, comme a dit le professeur Deneau, ici à la Maison du cinéma ce 30 septembre dernier. Le dernier point qu'il disait, c'est là qu'il parle des biorégions. Donc, il faut, en gros, démanteler l'évasion fiscale. Je viens de dire 4-5 manières d'y arriver. Mais il parle aussi il fait la promotion de la biorégion que nous devrions installer. Fait que c'est dans son livre « Faire que » qui sort aujourd'hui. Pourquoi c'est important, c'est que je me souviens d'un article que j'ai lu de lui, là, c'est l'érosion dans les péninsules acadiennes, c'est les changements climatiques qui ont fait ça, et puis ça cause beaucoup de problèmes, puis les gouvernements sont absents pour régler ça. Alors, d'une part, les changements climatiques, d'autre part, l'absence des gouvernements nous oblige à créer des biorégions. Et obligation, ça veut dire que c'est un impératif, c'est une nécessité. Fait qu'il faut s'informer comme avant-garde là, sur c'est quoi une biorégion, réfléchir à ça. Par exemple, je pense, moi, que ce serait le fun là, de consulter ici même le département de géographie et le département de biologie qui s'occupe du vivant, puis la géographie, c'est les limites géographiques, là, pour essayer de déterminer, non seulement à Sherbrooke, mais dans l'Estrie en général, combien il y a de biorégions. Je sais qu'à Sherbrooke, nous avons 37 % du territoire qui est agricole. Et je sais, pour en avoir parlé au conseil municipal, qu'on ne peut pas faire l'agroécologie parce qu'il y a trop de petites lois qui nous empêchent de le faire. Alors, il faut changer ces lois-là. Tout le monde le dit, excepté le gouvernement de proximité. Parce que, par exemple, Slow Food, là, qu'il faut installer de l'agroécologie pour réparer la terre. Vandana Shiva a écrit un livre au complet là-dessus. Réparer la terre avec l'agriculture régénérative. Et comme on vient de voir, les dégâts causés par l'agriculture industrielle, c'est 15 000 milliards de dollars, imaginez-vous. Le budget militaire mondial, c'est 2 000 milliards, puis 30 % seulement pourrait aider à résoudre les problèmes de pauvreté. Par ailleurs, l'élimination de l'évasion fiscale, elle aussi, pourrait à elle seule résoudre les problèmes de pauvreté. Fait que, c'est ça qui est ça. On est rendu où dans l'émission? J'ai parlé de Slow Food et tout ça. Fait que, le vocabulaire, je l'ai dit, les notes, l'article. Je pense qu'on va passer déjà à l'autre publicité. Et puis, on va continuer à parler. À tantôt. OK. Ici Claude Saint-Jean pour « Nous, le futur ». Merci pour cette belle chanson. Je pense que ça s'appelait « Allô, fantôme ». Je ne suis pas sûr, là. Fait que j'ai parlé d'Alain Deneau tout à l'heure. Je vous dis que la semaine prochaine, je vais lire des extraits de ses livres. Sachant qu'il venait ici, je n'ai pas eu la chance de l'interviewer. C'est correct. Peut-être qu'on peut se reprendre dans le futur. Fait que j'ai quand même pensé à 20 questions. Ce qui m'a pris... franchement, à peu près 8 heures. T'sais. Ça n'arrive pas souvent que je fais ça, mais c'est arrivé à 8 heures à peu près. Fait que je vous lis 3 des 20 questions que je voulais poser. Est-ce que le livre « Totalitarisme pervers » d'une multinationale au pouvoir synthétise d'une manière satisfaisante l'autre livre « De quoi Total est-elle la somme? » Pouvez-vous me nommer un ou deux philosophes préférés de vous? Et puis, qu'est-ce que la richesse de votre point de vue? Alors, c'était 3 questions sur 20 pour le professeur Deneau. Là, maintenant, j'ai un petit poème à vous lire du livre « Mon cher petit territoire » d'une autochtone qui s'appelle Nounouapiga. C'est aux éditions Anénorak, justement, faite par Daniel Sui, dont j'ai lu tout à l'heure un peu d'article. Alors, je pense que c'est une Inou, oui, c'est ça, de la famille Inou Koudjouak au Nunavik. Fait que le poème commence comme ça. Le temps est apaisant, ensoleillé. Il y a peu de vent. On entend les bruits du rivage, le chant des oiseaux, les fleurs. Toutes leurs couleurs sont belles. Les cailloux font un joli bruit quand on marche dessus. Ça rend heureux. Chanter quand on écoute un ruisseau couler. On voit de toutes petites truites monter et descendre. Les ivigojates penchent d'un côté, puis de l'autre. C'est peut-être des quenouilles, ça, je ne sais pas. Sous la brise, le territoire est vert. Les nuages avancent lentement. Je chante les yeux fermés. C'est la fin du poème. Alors, c'est beau. Et puis, je trouvais la simplicité du langage en question me rappelait la simplicité du langage de Gilles Valiquette au Vieux Clocher en fin de semaine passée. Je me souviens qu'il disait « Je suis sur le balcon et je parle avec les gens qui me disent bonjour ». C'était plein de petites phrases simples comme ça. Nous tous et toutes, on en dit des phrases simples comme ça à chaque journée. Les artistes, eux, ils mettent de la musique là-dessus. C'est ça qui est le fun. Et des fois, je suis jaloux de ces artistes-là. Mais bravo à vous. Maintenant, vous savez qu'il existe une association des artistes pour la paix. Pierre Jasmin en est le secrétaire. Je pense que ça a 43 ans d'existence. Et puis, j'ai interviewé une fois Pierre Jasmin ici. Et dans un courriel, d'abord, je vous encourage à aller voir leur site Internet. Les artistes pour la paix, puis tenez ça, vous allez y arriver. Là. Je ne sais pas l'adresse par cœur, je vous l'ai déjà dit antérieurement. Et puis, il donne plusieurs points, plusieurs recommandations à la fin d'un article que j'ai reçu de lui ce matin. Alors, nous appelons nos collègues professeurs et étudiants à poser des gestes concrets. Premièrement, informez-vous sur les enjeux liés aux armes nucléaires et démontrez activement leur inutilité croissante au sein d'une stratégie de sécurité d'État. Deuxièmement, prenez position, seul ou préférablement en groupe, et faites connaître vos préoccupations au gouvernement et à la population du Canada. Troisièmement, faites pression sur votre université pour qu'elle évite les investissements directs ou indirects dans l'industrie militaire. En parenthèse, je pense qu'ici, en recevant une subvention de Total, indirectement, Total produit des armes en Afrique peut-être. Là. C'est une question que j'avais pour Alain Deneau. Et demandez à votre université d'éviter la recherche financée par l'industrie militaire. Assurez-vous que le désarmement nucléaire et le contrôle des armements figurent au programme des cours en sciences politiques. Reconnaissez l'expertise des organisations de la société civile et invitez-les à s'exprimer en classe et lors de séminaires ouverts à tous sur le campus. Encouragez les étudiants à former des groupes de pression et aidez-les à se trouver des conseillers au sein de l'université. Alors ça, c'est terminé pour les suggestions de les artistes pour la paix. Mais moi, j'ai écrit ce matin à Pierre Jasmin, puis j'ai suggéré, fait une suggestion, j'ai dit allez seul ou avec des amis au conseil municipal, à votre conseil municipal, pour suggérer que la ville célèbre le jour de la paix, le 21 septembre, et le mois de la culture de la paix, c'est en novembre. Et puis, ça peut être des variations, là, s'il y a des industries militaires. D'ailleurs, à Sherbrooke, on en a une, là, General Dynamics, dont une filiale de Repentigny produit des roquettes pour la guerre d'Israël. Alors ça, c'est sérieux, là. Il faudrait arrêter ça. Il faudrait faire un exemple de conversion de l'industrie militaire à des fins civiles, comme nous a montré dans ses écrits le professeur Seymo Melman, qui est décédé, là, mais par contre qui nous a laissé une littérature très riche, qui nous montre comment faire la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles. Entre parenthèses, dès 1960, il avait écrit un livre, The Peace Race, alors que depuis que moi que je suis né, c'est la course aux armements. Et puis, il a écrit un livre, c'est The Depleted Society, c'est notre société détériorée. L'autre jour, à la manifestation sur la paix, j'étais à côté d'une étudiante de Bishop, bilingue. Je lui demandais de déplier tout, c'était quoi, là? Finalement, c'est presque pourri. Fait que, tu sais, notre société est très déstructurée à cause des investissements dans l'armement nucléaire. C'est pire aux États-Unis qu'ici, très, d'accord. Mais néanmoins, nous sommes enchevêtrés avec le système de guerre permanent, l'économie de guerre permanente états-unien. Et puis, blablabla, donc c'est ça. Fait que j'ai oublié l'autre idée que je voulais dire, mais peut-être que je vais la retrouver plus tard. Fait que je voulais vous parler aussi d'un livre qui s'appelle « Cohérence cardiaque 365 ». C'est du docteur David O. apostrophe Hare, H-A-R-E. C'est 3 fois par jour, 6 fois par minute et 5 minutes. C'est le guide de la respiration anti-stress. Donc, 365, c'est tous les jours et c'est en 3 lignes tout ce que vous devez savoir pour changer le cours de votre vie vers un meilleur équilibre et une plus grande cohérence en santé physique, émotionnelle et morale. Le docteur Andrew Armour à Montréal, A-R-M-O-U-R, a fait une découverte intéressante à propos de cette respiration-là. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Il s'agit de diriger le souffle consciemment là, vers le cœur parce qu'il y a une variabilité cardiaque. C'est le docteur David Servan-Schreiber dans son livre « Guérir du stress et de l'anxiété, de la dépression sans médicaments et psychanalyse » qu'il nous suggère de faire la cohérence cardiaque. Cette cohérence-là, elle fait baisser le cortisol, elle augmente le DHEA. C'est une hormone qui entre en jeu pour moduler le cortisol. Elle a aussi un rôle primordial à jouer dans le ralentissement du vieillissement. Bon, puis... Supposons que vous êtes super stressé, super éco-angoissé. Entre parenthèses, Alain Deneau préfère éco-angoissé que éco-anxiété. Je vous confie le numéro d'urgence, c'est 161. Ne cherchez pas dans l'annuaire, il n'y figure pas encore. Vous aurez compris qu'il s'agit du 161, c'est-à-dire une fois 6 respirations par minute pendant 1 minute. Respiration, comme je le disais, dirigée vers le cœur. Et si vous allez dans Internet et vous pitonnez cohérence cardiaque, vous allez avoir des graphiques qui vous montrent exactement comment faire cette sorte de méditation qui fait beaucoup de bien. Moi, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que je la fais beaucoup. Régulièrement, là, 2 fois par jour. J'avais oublié que c'est 3 fois par jour. Alors là, il faut que je me réentraîne. Fait que là-dessus, je termine. Mon nom est Claude Saint-Jacques. Vous êtes à l'écoute de À nous le futur, où on fait place au futur, puis on fait place au moment présent aussi. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Je vous souhaite une bonne santé, beaucoup de joie. Et puis, je vous souhaite de la patience jusqu'à la semaine prochaine. Pour avoir des autres nouvelles de À nous le futur. Et si vous pouvez, dépêchez-vous, allez à votre bibliothèque, à votre librairie, trouvez le livre du professeur Alain Deneau qui s'appelle « Faire, F-A-I-R-E, Q-U-E, point d'exclamation ». Ça sort aujourd'hui. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Mangez bien, de la bonne nourriture pour garder votre santé, et etc., etc. Salut.